1er mai 1944. Il est 20h15. Dans la France entière, les cadrans des postes de TSF s'allument. Les aiguilles de repérage balaient la grille des ondes moyennes ou des ondes courtes à la recherche de la BBC. Tout à coup, elles accrochent une station inconnue.
Honneur et patrie, voici le poste de la résistance française. Ainsi s'achève le dernier des 1er mai de combat. Il aura été le plus unanime et le plus farouchement décidé des jours de lutte. Dans toute la France, l'ennemi a pu mesurer l'étendue de la menace qui le guette. Il sait que désormais, peu de temps le sépare de l'exécution. L'heure de l'action décisive va sonner bientôt. Il n'est plus pour les patriotes que de l'attendre avec calme et résolution.
Non, ce n'est pas la BBC qui transmet ce soir du 1er mai 1944 ce message d'André Gillois donnant les directives du Conseil National de la Résistance. La station qui vient d'émettre est une radio noire qui s'appelle Honneur et Patrie, le même nom que celui de l'émission réservée au général de Gaulle ou à ses porte-paroles. Et l'indicatif que vous avez entendu est un air encore inconnu et sans parole qui deviendra le chant des partisans. Les radios noires, ce sont des stations qui sont censées émettre de l'intérieur du territoire occupé. En réalité, Honneur et Patrie, qui est dirigé par André Gillois, Maurice Druon et Claude Dauphin, émettent d'un petit village anglais, le village de Woburn, qui était la résidence des ducs de Bedford. Le duc de Bedford, de ce temps-là, avait des sympathies pour Hitler. Et en arrivant à Woburn, André Gillois avait demandé au colonel Beck des services secrets britanniques ce que l'on avait fait du duc pro-nazi. « Il chasse la grouse en Écosse », avait répondu le colonel, qui avait ajouté dans un sourire « En Angleterre, voyez-vous, on ne fusille pas les ducs ». Mais revenons aux radios noires installées à Woburn. Comme les autres radios de ce genre, Honneur et Patrie ne dépendait pas de la BBC. Elle était organisée et gérée par le fameux SOE, le service secret. Honneur et Patrie émettait en ondes courtes, ce qui limitait le nombre des auditeurs, mais cela n'avait guère d'importance car les émissions étaient essentiellement destinées à la résistance et aux maquis. Or, le 1er mai 1944, André Gillois renouvelle des consignes de prudence et de patience.
En vue de l'action immédiate, former des comités dans les villes, villages et entreprises, par la coordination des formations déjà existantes ou des créations nouvelles et y enrôler les patriotes non encore organisés. Tous les comités ainsi constitués doivent être placés sous le contrôle des comités régionaux de libération qui transmettront les directives du Conseil national de la résistance. Le but principal doit être, à chaque échelon, de coordonner l'action militaire avec l'action de résistance des masses. Tel est votre programme en attendant le déclenchement des opérations. N'attendez pas de nous que nous vous en révélions la date, que nous ne connaissons pas évidemment, mais que chacun comme nous sait proche. Rappelez-vous seulement ce que nous vous avons dit tant de fois à propos du fameux jour J. Ce jour ne marquera que le début des opérations et aucune manifestation inutile ne doit en compromettre le déroulement ni mettre en danger vos personnes. De même que l'on ne peut pas savoir la date exacte, on ne peut pas connaître les lieux précis. En tout état de cause, il y a des objectifs militaires évidents, dont ceux qui ne combattent pas doivent s'éloigner. Il y a des zones de combat probables que chacun peut supputer. Mais pour les résistants, la lutte risque d'être plus dure encore ailleurs, loin des zones de combat. Il faut donc être prêt partout et à tout moment.
Mais pourquoi ces consignes? Pourquoi réfréner l'ardeur des maquis désormais nombreux, bien entraînés et bien armés? Ces maquis qui semblent pouvoir sans trop de peine contrôler de nombreuses régions de France, celles en particulier où la pénétration et la circulation sont difficiles, la Haute-Bretagne, le Massif central, la Savoie. La Savoie. C'est justement à cause de ce qui s'est passé en Savoie il y a quelques semaines qu'Honneur et Patrie, radio de la résistance française, se montre si prudente. Entre le 31 janvier et le 26 mars 1944, en effet, les maquis ont tenu et défendu le plateau des Glières au nord-est d'Annecy. Dans cette glorieuse et affreuse péripétie, la radio a joué un rôle capital. Jean-Louis Crémieux-Briac, l'un des responsables du rôle militaire de la BBC, résume l'opération.
C'est la première fois que les Français ont occupé et défendu une portion du sol national, mais finalement 150 hommes ont été tués et près de 80 déportés en Allemagne. Or, l'équipe qui soutenait les Glières avait une liaison par radio avec Londres. Et tous les jours, donc, le délégué militaire qui s'appelait en nom de code Cantinier télégraphiait à Londres et recevait des instructions clandestines, mais aussi des instructions que Maurice Schumann disait à haute voix sur l'émetteur de la BBC. Et jour après jour, on a donc su à Londres que les miliciens étaient repoussés et puis finalement que le gouvernement de Vichy recourait aux Allemands et que les Allemands intervenaient en force contre les 256, je crois, défenseurs des Glières. Alors à ce moment, le délégué régional, avec l'accord de toutes les autorités de la résistance, a demandé que Londres lance un appel de grève générale dans la région Rhône-Alpes et d'insurrection pour soutenir les gars des Glières. Et moi j'ai reçu ce télégramme, je l'ai montré à Georges Boris qui était un très important conseiller de la France libre en matière de radio et de guerre psychologique et d'action politique, il a laissé passer. Nous l'avons transmis à Schumann qui le soir a lancé un message bouleversant, SOS Maquis, mettant en garde les Maquis et recommandant l'intervention pour soutenir les Glières.
C'est le 6 février 1944, en effet, à 21h25, que Maurice Schumann lance son appel. Un appel dont nous n'avons pas de traces sonores, mais dont il reste le texte.
Allô Maquis, allô Haute-Savoie, allô Maquis de la Haute-Savoie, nous avons bien reçu vos consignes. Nous les avons aussitôt répétées et transmises. Depuis que le 2 février au soir, nous vous avions lancé le cri d'alerte, pas un instant nos pensées et nos efforts, je répète, nos efforts, n'avaient cessé d'être tendus vers vous. Mais délibérément, nous vous avions épargné les vaines paroles. C'était à vous de nous dire quand et comment nous pouvions vous aider dans la lutte. Très tard hier soir, nous est parvenue votre requête. Dès ce matin, à l'aube, puis toute la journée, presque d'heure en heure, nous avons, à votre appel, diffusé les quatre consignes que vous avez formulées vous-même. Premièrement, au sédentaire armé, vous avez dit par notre bouche, rejoignez d'urgence les maquis de la Haute-Savoie. Deuxièmement, aux travailleurs de Haute-Savoie, vous avez dit par notre bouche, chaque fois que votre activité peut, directement ou indirectement, seconder les opérations engagées ou préparées contre les maquis, cessez le travail, déclenchez la grève de solidarité avec vos frères assaillis. Troisièmement, à tous les patriotes savoyards, vous avez dit par notre bouche, sans vous exposer à des risques inutiles, mais sans reculer devant les risques utiles, n'hésitez pas à procéder au sabotage des voies ferrées, des routes et des usines, dont le fonctionnement favoriserait le travail des agresseurs. Quatrièmement, à tous les patriotes savoyards, enfin, vous avez dit par notre bouche, notez scrupuleusement les noms et le signalement des miliciens chargés d'encadrer et de guider la police. Chacun de ces misérables doit savoir, comme le savent déjà l'intendant de police Lelon, le colonel Pratt, le colonel Candille, le colonel Bertrand et le contrôleur général Delguet, que désormais, il est l'otage de la France.
Du coup, le maquis des Glières prend une importance nationale et internationale. À Vichy, l'Oberführer Joseph Darnand, secrétaire général au maintien de l'ordre, relève le gant. À Londres, on s'aperçoit qu'on est allé un peu vite en besogne. Le SOE, les services secrets britanniques, savent que le maquis des Glières ne pourra pas tenir jusqu'au débarquement. Dès le lendemain du premier appel, le 7 février au soir, Maurice Schumann essaie de corriger les consignes.
Bonheur et merci. Allô, allô. Maquis de la Haute-Savoie. Maquis de la Haute-Savoie. Écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités d'Amiens. La mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité.
Mais il est trop tard. La puissance des mots, la puissance de la radio, ces nouvelles forces que la guerre a révélées ne peuvent plus s'inverser. Les opérations sont lancées et elles vont durer plus d'un mois. Des armes, des munitions sont parachutées. La BBC soutient le moral des maquisards. Le 15 février, Maurice Schumann, encore lui, demande à tous les Français d'aider les maquis.
Habitants des départements de l'Ain, du Rhône, de la Loire, du Jura, de l'Ardèche, de l'Isère, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de la Drôme et de la Saône-et-Loire, vous vous dites, nous le savons, que chacun d'entre vous joue par rapport aux soldats du maquis le rôle des arrières par rapport à la première ligne. La grève nationale, régionale ou départementale est une arme décisive dont l'usage prématuré pourrait briser l'efficacité. Mais en accord avec les organisations syndicales et les organisations de résistance qui vous encadrent, vous savez, quand il le faut, déclencher sur des points limités les actions nécessaires pour dérouter les trains ou les convois de l'assaillant, pour bousculer ses plans, pour retarder ses oreilles. Si l'agresseur vous craignait moins, il n'aurait pas, comme dans certaines parties de la Savoie, dressé jusqu'à 10 barrages successifs sur 40 km de route. En exaspérant la France, espère-t-il la juguler ou la pousser à des gestes précipités, dans les deux cas, il sera déçu. Agents de la force publique, nous savons que sur les fronts de Savoie, comme partout, votre haine et votre mépris sont tournés non point contre vos frères et vos fils, insurgés contre la mobilisation pour l'ennemi, mais contre les tueurs assermentés à Hitler qui, sous l'uniforme de la milice, vous mouchardent et vous commandent. Les soldats du maquis, soldats comme vous et de la même armée que vous, ont si bien compris que leur mot d'ordre est et reste ne pas tirer sur la police française sauf à la toute dernière extrémité. À leur témoignage de solidarité, vous répondrez par un témoignage de solidarité. Vous ferez tout, vous aussi, pour n'avoir pas le sang français sur les mains. Si vous n'avez d'autre recours que de rejoindre vous-même le maquis avec vos armes, vous choisirez cette conduite glorieuse et dangereuse plutôt que d'avoir sur la conscience l'arrestation ou la mort d'un seul réfractaire, mais vous n'oublierez pas non plus que la meilleure façon de servir est, tant que vous le pourrez, de rester à votre poste pour avertir ceux qu'on vous ordonne de traquer, pour ne pas les trouver ou pour les laisser fuir. Tirer en l'air ou mettre la crosse en l'air, à vous de choisir selon les cas le moyen d'accomplir votre devoir de désobéissance envers l'ennemi, mieux vaut, en tout état de cause, aller grossir le maquis plutôt que de se laisser arrêter soi-même par un bandit de la milice. D'un gros bourg de France, nous venons de recevoir le message suivant. Nombre de jeunes gens de la classe 44-80. Nombre de ceux qui prennent le maquis, 76. Chez nous, les classes s'incorporent dans le maquis comme jadis, elle s'incorporait dans l'armée. À ce bulletin magnifique, nous n'apporterons qu'une correction. Pourquoi dire comme jadis, elle s'incorporait dans l'armée ? Le maquis, c'est encore l'armée régulière de la France. Une armée dont le premier difficile devoir est de ménager ses forces, d'éviter le combat à armes inégales, de ne pas se laisser accrocher, de rompre le contact pour le reprendre ensuite, de savoir se disperser pour se regrouper aussitôt. Aujourd'hui, la bataille de France est une bataille d'usure. L'ennemi s'y usera le premier.
Mais il est déjà trop tard. Bien sûr, dans la nuit du 9 au 10 mars, les maquisards attaquent le grand QG des forces de l'ordre et s'en emparent. Mais l'un de leurs meilleurs chefs, le lieutenant Morel, dit Tom, est tué dans l'opération. Darnan demande alors au général nazi Oberg son assistance. Et le 26 mars 1944, 12 000 Allemands et 4 000 hommes de Vichy, appuyés par l'artillerie et l'aviation allemande, montent à l'assaut du plateau des Glières. Les maquisards sont 500. Ils combattent à 1 contre 30. Ils résistent pendant des heures. Mais finalement, ce sont les Allemands qui auront gain de cause. Le maquis des Glières sera décimé. Cela donne l'occasion à Philippe Henriot de faire la chronique sans doute la plus dégradante de toute sa carrière.
Une journée lumineuse et limpide. Un clair et tiède soleil annonciateur d'un tardif printemps. Des vallées où chantent des torrents. Des terres qui fument sous le soc qui les évente. Des forêts de sapins accrochées aux pentes abruptes parmi les étendues neigeuses qui étincellent et miroitent dans cette splendeur. Un ciel si parfaitement bleu qu'il fait rêver des ciels italiens. C'est dans ce décor de paix que toute cet après-midi j'ai circulé. Par quel paradoxe fallait-il que ce cadre fût précisément celui de la guerre civile agonisante? Un peu partout, dans les fermes et les hameaux, des postes de Frangarde ou de GMR surveillent les vallées et les routes, par où essaient de s'infiltrer les derniers débris de ce qu'on a osé appeler une armée. Non qu'il s'agisse de diminuer l'importance et même la puissance malfaisante de ces bandes équipées et armées auxquelles on doit hélas la mort de tant d'ennemis, mais comment en revanche ne pas demeurer stupéfaite et navrée quand dans ces postes de fortune installés dans les chalets de montagne, et tandis que retentit au loin un coup de feu attardé, tandis que monte entre les forêts la fumée d'un incendie, on peut voir les prisonniers faits par les forces du maintien de l'ordre. Il y a quelques minutes à peine, j'en avais devant moi quelques-uns venus d'un peu partout. Je les ai interrogés. À les entendre, personne d'entre eux n'a jamais tiré un coup de feu. D'une voix molle, traînante, certains disent avec un regard fuyant, « Tirer, nous, mais nous ne sommes pas des bandits. » Mais la conviction n'y est pas. Allez croire, ils sont tous là depuis quelques jours à peine, ils n'ont jamais pensé à faire du mal. On sent la consigne, pas un a d'armes. On leur demande, mais vous étiez armés là-haut. Ils en conviennent. Et il ne leur resterait à déclarer qu'ils s'imaginaient venir faire du camping ou bien qu'ils ont été trop lâches pour se servir de leurs armes. On voudrait leur trouver des circonstances atténuantes. Il n'y en a guère. Et il faut voir leur regard quand l'interrogatoire terminé, un interrogatoire désarmant en vérité, ils demandent d'une voix suppliante et tremblante que vous n'allez pas me fusiller au moins. Quand je les regardais, que je les entendais, je souffrais. J'ai vraiment souhaité entendre un cri de fierté, un cri de défi. J'aurais voulu trouver des hommes. J'ai trouvé des loques. Je le dis comme je l'ai vu. Je n'ai pas le goût d'avilir des adversaires. À plus forte raison, des adversaires réduits à l'impuissance. En les écoutant, pensez à vous, jeunes gens, réfractaires de toute catégorie, que le désir de la bagarre poussait. Même quand on savait que vous vous trompiez, vous restiez attachant du moins par un certain goût français du panache. Vos bravades avaient leur grandeur, votre naïveté généreuse méritait un salut. J'aurais voulu vous avoir à côté de moi cet après-midi. J'aurais voulu vous montrer ces pauvres caricatures de héros devenus vagabonds et dans les yeux de qui ne se lisait plus qu'une morne peur. vous auriez été épouvanté de voir comme dans un miroir ce que voulaient faire de vous les chefs à qui vous vous étiez confiés.
Les Allemands eux-mêmes sont plus honnêtes que Philippe Henriot. Un commandant de la Wehrmacht a déclaré « Les hommes du maquis se sont battus comme des lions. Quant à ces miliciens, c'est de la racaille. » La BBC ne manquera pas de citer ce jugement de l'adversaire. Mais la moitié des 500 maquisards ont été tués ou déportés. Et si la résistance française a gagné l'estime des plus réticents, le bilan est lourd, trop lourd. Il n'y aura plus de second plateau des Glières. Voilà pourquoi, ce soir du 1er mai 1944, André Gillois, sur la station à ondes courtes d'Honneur et Patrie, prêche le calme et la prudence. Ses amis du service français de la BBC en font autant. Ils ont compris que dans les semaines qui vont précéder et suivre le débarquement, dont personne ne connaît la date, la radio cesse d'être un divertissement ou un instrument de propagande pour devenir une arme de guerre.
Honneur et patrie, voici le poste de la résistance française.
Londres. Don't fence me in, Bing Crosby, la suite d'Histoire d'un jour. Dans... Oui. Ce 1er mai 1944, la radio est une arme de guerre. Ce même jour, la BBC a lancé un mot d'ordre de grève de 11h à midi. Avant-hier, elle a demandé aux Français de ne pas se faire recenser. Elle vient de rappeler aux résistants les règles de sécurité élémentaires.
Règles de silence. Pas de confidences inutiles, pas de conversation dans la rue. Les micros ont été placés dans un certain nombre de cafés en vue d'écouter les conversations. Le silence s'impose, même lorsque personne n'est à proximité. Deuxième règle, bien choisir le lieu de ces rendez-vous. Accepter et donner des rendez-vous dans des rues excentriques, dans des cafés peu connus, et en changer souvent. On nous signale que la Gestapo s'est aperçue du fait que les églises étaient utilisées comme lieu de rendez-vous. Beaucoup d'entre elles sont surveillées. Troisième règle, l'exactitude. Il est véritablement criminel de faire attendre à un coin de rue un camarade chargé de paquets. On nous signale plusieurs arrestations récentes dues à cette imprudence. Quatrième règle, ouvrir les yeux. Il est presque impossible d'être filé si l'on fait attention. Avec un peu d'habitude, on reconnaît assez facilement un policier français en civil. Un policier allemand se reconnaît presque immanquablement.
Règles d'action, instructions, consignes, mots d'ordre. En ce début du mois de mai 44, la section française de la BBC se transforme en un gigantesque poste de radio de campagne. En plus des émissions destinées au grand public, à midi et le soir, la BBC diffuse 30 minutes d'émissions destinées à alimenter la presse clandestine. Elle transmet une émission de nuit spéciale pour les travailleurs et les prisonniers en Allemagne. Et indépendamment des radios noires et des postes spéciaux des services secrets, elle a une émission en morse entre 3h30 et 3h45 du matin. Et puis, à tout moment, elle lance par la voix de ses speakers ses mystérieux messages personnels que les réseaux de la résistance écoutent le cœur battant et dont l'humour fait souvent sourire ceux qui n'en ont pas la clé.
La fortune vient en dormant. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir.
En 24 heures, la BBC ira jusqu'à diffuser près de 400 messages personnels. La moitié de ces messages ont une signification précise. L'autre moitié est pour tromper l'ennemi. Pour ceux qui savent, la lune est pleine d'éléphants verts, veut dire que les réseaux Jacques et Robin doivent appliquer le plan de sabotage des chemins de fer. Le premier accro coûte 200 francs, signifie que la région R1 doit appliquer le plan vert. Quant à Pierrot est un détestable motard, ce n'est pas un jugement désagréable, non, mais l'ordre donné au réseau Mazon, qui opère dans la région lyonnaise, de perturber les télécommunications dans sa zone. Jean-Louis Crémieux-Briac raconte comment étaient rédigés les messages personnels.
les messages personnels, dans certains cas, étaient vraiment des messages personnels pour signaler qu'un tel était arrivé à Londres ou envoyer sous une forme codée des nouvelles à une famille. Mais le plus souvent, c'était des messages d'opération et d'action qui annonçaient un parachutage, qui donnaient une consigne d'intervention ou de sabotage à des équipes qui étaient en France. Et à ce titre, elles étaient donc chargées d'une portée dramatique. Les messages eux-mêmes étaient préparés par le service secret français, le BCRA, Bureau Central de Renseignement et d'Action, et soumis à la censure anglaise, et puis transmis à la BBC qui n'en connaissait pas le sens, qui ne savait pas à quoi ça correspondait. Dans certains cas, la consigne devait être à la dernière minute décommandée. Bien souvent, la consigne passait deux fois. Une fois à 7 heures du soir, par exemple, pour annoncer un parachutage dans la nuit. Et puis, l'avion ne pouvait pas prendre le départ, le temps tournait à la tempête. À 9 heures du soir, il fallait annuler l'opération et on contremandait le message sous une forme codée. Dans certains cas, les messages avaient une portée poétique, une tournure poétique très curieuse. Par exemple, un message dont on se demandait bien ce qu'il voulait signaler, signifier, qui était « Melpomène se parfume à l'héliotrope ». Et tous les soirs, Melpomène changeait de parfum. Et en réalité, si je me souviens bien, il s'agissait d'annoncer l'avion qui viendrait prendre en France Massigli, et qui pendant 3 ou 4 soirs a été retardé par le mauvais temps, et finalement, quand Melpomène s'est parfumé à l'héliotrope, l'avion a pu atterrir et Massigli a pu être emmené en Angleterre.
Ces messages personnels que des officiers humoristes ou érudits rédigent au BCRA de Londres et que le speaker transmet sans les comprendre, constituent une sorte de va-et-vient permanent entre Londres et l'armée secrète. En France aussi, les précautions sont bien prises. Il y a un homme pour recevoir le message et pour transmettre à son tour, un homme pour coder et décoder, un homme pour exécuter ou faire exécuter. Deux résistants du réseau Tartane-Masséna, Antoine Pierazzi, dit Verger, et Léon Geffen, dit Vigne, racontent comment les choses se passaient.
Celui qui recevait le message entre 11h et demi, et on se voyait tous les jours, tantôt à 9h du matin, tantôt à 11h sur le cours de grâce, et on marchait un tout petit peu, on se disait bonjour, et de temps en temps, il disait, j'ai quelque chose à te dire, passe au commissariat de police. Parce que comme l'officier de police était avec nous, c'était l'endroit le mieux pour pouvoir discuter, parce qu'il ne fallait pas trop qu'on se discute dans la rue de ce truc-là. Ce message donnait des ordres, on les interprétait, parce qu'il y a, dans le courrier qu'il y avait, il y avait l'interprétation de cet ordre. Par exemple, le message qu'on m'avait... On m'avait dit, il y a un message, combien de dents un éléphant, il fallait savoir combien de rations de pain les Allemands faisaient à Grasse, parce que c'était le secteur Grasse-Valbonne-Cannes. Comme ça, on savait combien de militaires.
Et dans cette région du sud-est, est-ce que les Allemands contrôlaient les écoutes?
Ah oui, nous avons eu un coup dur à Maganiosque. Il y avait un radio avec un émetteur qui était dans une maison et qui devait émettre, il a commencé à émettre à 2h. Il a commis la bêtise d'émettre tous les jours à la même heure. Et les Allemands n'ont pas pu le piper. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait circuler 2 ambulances et par goniométrie, ils ont trouvé... Et ils les ont attaqués, le bonhomme a été tué, il a arraché le fil, il a fait sauter l'émetteur et il s'est fait tuer de façon à ne pas... Et celui qui était avec lui a été déporté, c'est Calin.
Ainsi en France, des centaines d'émetteurs comme celui du réseau Tartane-Masséna dialoguent secrètement avec la BBC. Le petit lapin blanc envoie tous ses voeux à ses amis et au père lapin. Un petit oiseau est un animal gentil. Derrière ces phrases drôles et inattendues se dissimule désormais une énorme organisation dont la BBC est l'un des rouages. Et les speakers de la section française qui transmettent les messages sans avoir à les comprendre ont conscience que leur rôle a changé. Pour eux aussi, alors que les premières bombes volantes, les V1, vont commencer à tomber sur Londres et même sur la BBC, une autre bataille a commencé. Qui écoute André Gillois à Honneur et Patrie ou les messages de la BBC ce 1er mai 1944 ne se rendent peut-être pas compte que cette guerre est pour la France décidément une drôle de guerre. Des Français se battent aux côtés des Allemands contre les Russes dans la Waffen-SS. Des Français se battent contre les Allemands aux côtés des Russes dans l'escadrille Normandie-Niemen. Des Français combattent sous l'uniforme français en Italie. Ils sont condamnés à mort par le gouvernement français qui siège à Vichy. Il y a une radio française à Londres que tout le monde écoute. Il y en a une autre à Paris que l'on écoute moins. Il y en a une troisième à Stuttgart que l'on n'écoute pas du tout. La France se bat sur son propre territoire, avec ou sans uniforme. Dans cette guerre, la géographie du front et de l'arrière est confondue. Dans le même immeuble, un locataire est peut-être un résistant, un autre un milicien et un troisième un attentiste. L'équipe de la section française de la BBC sait qu'il faut également qu'elle informe sur ce front intérieur, c'est-à-dire sur les maquis et la résistance. Depuis des mois, les maquis sont renforcés par l'arrivée massive de jeunes gens dont les Allemands exigent qu'ils aillent travailler en Allemagne au titre du service du travail obligatoire, le STO. Mais beaucoup refusent. Ce sont les réfractaires dont une bonne partie prend justement le chemin du maquis. Alors, à la fois pour informer les Français et pour susciter des engagements similaires, l'équipe de la BBC met au point un petit sketch de propagande.
Débarquez le poids ! Faites partir des femmes ! Le train partira si elle ne bouge pas immédiatement !
Qu'est-ce qui va se passer ? Vont-ils faire écraser les femmes ?
Non, regarde. On est en train de les enlever de force. Les Allemands ne tiennent pas à ce genre de massacre en masse. Ils préfèrent les faire d'une manière ordonnée.
Regarde, voilà ma soeur qui se débat entre deux nazis. Elle croit que je suis dans le train. Jean, il la frappe. Il la traîne par les pieds. Vite, un pistolet. Oh, j'aurai cette vache de boche quoi qu'il arrive.
Tu n'en feras rien. D'ailleurs, il est hors de portée. Tu n'en feras rien, tu m'entends ? Si tu veux être du maquis, tu obéiras, compris ?
Oui, je comprends. Je ferai tout ce que tu me diras.
Ça va. Le train qui démarre. Pauvre petit. Il vaut mieux gagner le bois, et à la tombée de la nuit, tu rencontreras notre chef.
À la fin du jour, Jean et Marcel, une fois de plus, grimpèrent le long du flanc de la montagne. Ils se glissèrent dans le village, et après 2 heures de marche, arrivèrent à un bosquet où se trouve notre camp. Jean déplaça un gros buisson qui cachait un étroit passage, et ils passèrent, replaçant soigneusement le buisson derrière eux. Et les voilà à la porte d'un grand abri. Je m'imagine le chef, assis là, entouré d'un groupe de 30 à 40 jeunes gens. Je vois son visage sévère, et j'imagine les questions serrées qu'il posa à Marcel, avant de décider finalement de le prendre à l'essai. Enfin, les questions sont terminées.
Très bien, Marcel. Vous êtes admis provisoirement. Provisoirement, je le répète. Dès maintenant, vous serez connu sous le numéro 82. Plus de nom. Jean vous a fait part de nos principales règles. Mais il y a une chose sur laquelle je tiens à insister. C'est que lorsqu'on vous confie des armes, vous devez les garder, même au prix de votre vie. Si vous les perdez, c'est la peine de mort. C'est clair.
Très clair. Aurais-je un fusil maintenant ?
Nous avons peu d'armes, 82. Celles que nous avons vont aux hommes qui ont de l'expérience. Si vous réussissez, on vous permettra de suivre notre cours de formation. Silence, tout le monde, je vous prie. D'abord, vous serez heureux d'apprendre que l'attaque contre le train militaire allemand la nuit dernière a réussi en tout point. Tout a marché suivant le plan établi. Les mitrailleuses étaient bien placées, les éclisses furent enlevées juste à temps et le train a déraillé. 60 Boches ont été tués et un grand nombre d'autres blessés. L'attaque a réussi. Mais au moment où ils échappaient, les numéros 50 et 69 ont été pris par les nazis.
Voilà. Ce n'est pas de l'excellent feuilleton, le texte est maladroit, l'interprétation également, mais à l'époque, c'était tout de même efficace. Il fallait d'abord montrer aux Français que les résistants et les maquisards n'étaient pas cette horde féroce d'assassins et de bolcheviques que décrivait tous les jours Philippe Henriot sur la radio dite nationale. Parmi ces résistants et ces maquisards, il y avait des représentants de toutes les couches sociales, de toutes les origines. À la BBC, ils expliquaient pourquoi ils avaient choisi ce combat. Il y avait aussi des femmes. Au micro de la BBC, l'une d'elles, Lucie Aubrac, s'adresse aux femmes françaises.
Nous vivons dans une atmosphère de camaraderie et d'entraide. Et il me montre le Benjamin, un jeune garçon des chantiers de jeunesse, évadé de sa province natale en espadrille et chemise Lacoste, vêtu maintenant aussi chaudement que le reste du groupe. C'est que la population nous aide. Elle sait maintenant que nous ne sommes pas des brigands et des pillards et nous procure des couvertures, des chandails et des chaussettes chaudes. Car vous savez, me dit le jeune chef, la vie est dure ici. Les nuits sont longues et froides. Le feu est éteint dès la tombée de la nuit, car la fumée déjà camouflée le jour risque trop de nous trahir la nuit. Les journées passent lentes. Une discipline stricte, un emploi du temps suivi permettent de maintenir le moral. L'entraînement militaire fait de chacun de ces jeunes gens un bon soldat. Chacun a conscience, dans cette armée sans uniforme qui mène son combat sur le sol de son pays, d'être avec ses alliés un artisan de la victoire. Ils me le disent quand je les quitte. Nous sommes en guerre, nous sommes soldats, avec un ravitaillement difficile en armes, en vivres, en équipement. Nous livrons une bataille sans jamais connaître la détente d'une permission ou le repos à l'arrière.
Oui, il y a des femmes dans la lutte. Mais les autres femmes, toutes les autres, ont également à combattre sur le front de la vie quotidienne. Et la BBC les encourage à manifester contre les rations qui permettent tout juste de ne pas mourir de faim et contre le marché noir où se construisent de solides fortunes. En ce mois de mai 44, la ration de viande tombe à moins de 100 grammes par semaine, tandis que le kilo de beurre va atteindre l'équivalent de 200 francs d'aujourd'hui. Mais ce que Lucie Aubrac a oublié de dire aux femmes de France occupées, c'est que le plus beau chant qui naîtra de cette guerre vient d'être composé par une femme, Anna Marie. C'est le chant des partisans qui sert d'indicatif à la radio noire Honneur et Patrie et dont André Gillois nous raconte l'histoire.
C'était à l'époque où je dirigeais le poste intitulé Honneur et Patrie, poste à onde courte qui faisait partie de la radio noire. Au moment où nous l'avions commencé, il y avait une réunion des principaux représentants des partis de la résistance et je leur ai dit qu'il faudrait un indicatif musical à notre poste. J'avais proposé à ce moment-là de m'adresser à un compositeur français qui se trouvait à Londres, qui s'appelait Chagrin. Et Emmanuel Lesquet m'a dit, ah ben non, je vais vous présenter une fille qui a beaucoup de talent, qui joue à la guitare quelques airs. Alors nous sommes allés le lendemain l'entendre dans la petite pension de famille où elle habitait. Elle a joué 6 airs sur sa guitare. Sur ces 6 airs, j'en ai choisi 2. Et nous les avons dès le lendemain enregistrés dans un des studios de la BBC. Je suis parti avec mes deux disques sous le bras. Et puis après une petite hésitation, au moment de lancer le poste, j'ai choisi l'un des deux, qui s'est trouvé être la musique du chant des partisans. Et Maurice Druon, travaillant avec moi dans ce poste, quand il a écrit ensuite avec son oncle Joseph Kessel les paroles du chant des partisans sur la demande de Germaine Sablon, qui voulait un texte pour un film qu'elle devait tourner avec Cavalcanti, tout naturellement, c'est cette musique qui a servi.
Amen. Quelques instants, après une petite pause, nous retrouvons Philippe Alfonsi et la suite d'Histoire d'un jour.
Cette journée du 1er mai 1944, qui est déjà une veillée d'armes, est aussi, mais bien peu le savent, une journée de nuit et de brouillard pour les poètes. Ce 1er mai 1944, en effet, le poète Robert Desnos entre au camp d'extermination de Buchenwald. Desnos, qui faisait partie de la résistance, Desnos, le surréaliste, qui à son tour a pris la plume comme on prend le fusil.
Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine, et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent, et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient, renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d'ordre. Révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères, et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera, car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit.
Oui, Desnos était dans la résistance et il a été dénoncé, arrêté, déporté. Avant d'arriver à Buchenwald, son convoi s'est arrêté à Auschwitz. On les a fait descendre du train. Ils étaient 1800 à attendre devant la porte de la chambre à gaz. Abrutis de fatigue, de faim et d'angoisse, ils étaient tous résignés à mourir. Et puis tout à coup, on a vu sortir des rangs un drôle de type, aux yeux globuleux qui roulait derrière le verre de ses grosses lunettes. C'était Robert Desnos. Il prenait les mains de chacun, examinait les lignes de vie et de chance, et prédisait à tous une existence longue et heureuse. Peu à peu, ce troupeau de condamnés s'est mis à rire, à revivre, à espérer. Et, inexplicablement, la chambre à gaz n'a pas fonctionné ce jour-là. On a fait remonter les prisonniers dans le train et le convoi est reparti en direction de Buchenwald, un enfer, mais moins affreux que celui d'Auschwitz. Quelques-uns en sont revenus qui ont raconté cette histoire, mais pas Desnos. Les poètes peuvent faire des miracles, mais seulement pour les autres. Eux sont trop fragiles, ils ne tolèrent pas la bêtise quand elle est trop lourde. Le jour même où Desnos arrivait à Buchenwald, ce 1er mai 1944, un autre poète, Max Jacob, s'éteignait dans un camp à Drancy. Sur la BBC, Jean Oberlé lui a dit adieu.
Le poète Max Jacob est mort au camp de Drancy. On l'avait mis dans cet horrible camp parce qu'il était juif. Il était pourtant converti au catholicisme depuis plus de 30 ans. Toute son œuvre depuis cette époque respirait la foi catholique, la plus intense et la plus sincère. Mais est-ce que les Allemands s'intéressent à ça? Les Allemands collent des étoiles jaunes sur la poitrine de ceux qu'ils martyrisent. Pour eux, c'est une étiquette déshonorante, la seule étiquette honorable étant leur croix gammée. Catholique ou juif, c'est tout un pour eux. Hitler est leur dieu. Qu'est-ce que cela peut leur faire aux gardiens du camp de Drancy que Max Jacob soit mort? Pour eux, ça fait un juif de moins.
Et ceux qui se souviennent des débuts du nazisme ne peuvent qu'en tirer une conclusion. Quand un régime commence par brûler les livres, il finit toujours par assassiner les poètes. Car il s'agit bien de fin. Ce 1er mai 1944, la guerre est en train d'aborder la dernière phase de ses péripéties. Au micro d'Honneur et Patrie, André Gillois a insisté sur l'urgence. Au micro de la BBC, la vie numéro 27 vient d'être diffusée. Les attaques aériennes vont s'intensifier, le débarquement est proche.
Les attaques dirigées contre les centres ferroviaires en France et en Belgique seront intensifiées au cours des semaines qui vont suivre. Il s'agit de disloquer les moyens dont dispose l'ennemi pour concentrer ses troupes et son matériel. Pour atteindre ce but, il faut accroître et maintenir le poids de ces attaques. Nos pilotes se rendent parfaitement compte qu'il y va de la vie et des foyers de nos alliés. Ils prendront donc le plus de précautions possibles. Mais inévitablement, l'étendue de ces attaques doit aggraver les souffrances de vous, nos alliés, endurés avec tant de courage dans cette guerre. Nous connaissons les difficultés extrêmes qui, à l'heure actuelle, entrave une évacuation de la population civile. Malgré tout, nous vous demandons avec insistance de faire l'impossible pour vous éloigner immédiatement du voisinage de toutes les installations ferroviaires. Avec la même insistance, nous faisons appel à ceux d'entre vous qui se trouvent dans des régions abritées pour accueillir chez eux ceux qui sont obligés de se déplacer. Tous les points vitaux des chemins de fer en France et en Belgique vont être soumis à de lourdes attaques aériennes au cours des semaines qui viennent.
Oui, le débarquement est proche et à l'est, les armées allemandes battent en retraite. Aux actualités, le commentateur peut continuer à prendre un ton faussement objectif. Maintenant, personne ne le croit plus.
Les permissionnaires allemands regagnent le front. Dernière halte. C'est en camion que sera accomplie la dernière étape. Les souvenirs du foyer sont déjà estompés. Des précautions sont prises. Nous voici près des lignes. Des bandes de partisans infestent la région. Dans un secteur, l'ordre de contre-attaquer est donné. Sur la vaste plaine où souffle le vent glacial, les troupes marchent vers les lignes russes. Un champ de mines est nettoyé.
Personne ne croit plus ni la radio, ni les actualités cinématographiques. Et d'ailleurs, à Londres, à la BBC, Pierre Dac remet les choses en place.
Les Allemands sont perdus. Les nazis sont foutus. Goebbels est tout tordu. Et Göring est fondu. L'armée rouge est partout. Hitler est au sang-coup. À force de tirer dessus, l'élastique s'est rompu. Pour le Führer en avant pour tout le camp, plus il en dégringolerait, plus il en resterait.
Ce 1er mai 1944 est le 1400e jour des émissions de la section française de la BBC en guerre. Les voix de la liberté ont suscité la haine, l'admiration, le rire, la tristesse, l'angoisse ou l'espoir chez des dizaines de millions de Français qui les ont écoutées. Quand quelques mois plus tard, Jean Oberlé rentre à Paris enfin libéré, il va faire un tour à Radio Paris pour voir, comme ça, simplement pour voir comment c'était en face. Et là, il a la surprise d'être accueilli par l'un de ses spécialistes, de ses professionnels, qui, dit-il, mettent leur micro sous le nez du vainqueur à l'arrivée du Tour de France. L'un de ses spécialistes qui lui dit sans rire « Ce que vous faisiez à Londres, monsieur Oberlé, n'était pas très radio, vous n'étiez pas des hommes de micro. » Et en effet, conclut Jean Oberlé, nous étions des amateurs. D'un jour est terminé, une émission réalisée par Christian Geldresch et préparée par Gérard Geffen. Secrétaire de rédaction Yves-Bernard Fogel, documentation de Julie Paolini et de Pierre-Alexandre Dolgorouki. Document sonore de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel et de la BBC, avec la voix de Gérard Dessart. Le rendez-vous que je vous donne lundi à 14h est un rendez-vous un peu particulier. Lundi, en effet, ce sera la 400e émission quotidienne d'Histoire d'un jour. 400 émissions, cela commence à faire beaucoup. Alors, nous avons décidé de fêter ça et de préparer une émission spéciale. Tout à fait exceptionnellement, Histoire d'un jour sera présentée ce jour-là par et à la manière de Pierre Péchin. Oui, Pierre Péchin. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous lundi à 14h pour la 400e d'Histoire d'un jour.
À passer ce vendredi exceptionnel aux Galeries Barbès. Dépêchez-vous. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi de l'année 78. Le dernier vendredi de l'opération Dernier jour de l'année aux Galeries Barbès. L'opération Dernier jour de l'année aux Galeries Barbès, c'est pour vous la dernière chance de vous meubler mieux et tellement moins cher en 78. En effet, pendant encore deux jours, les deux derniers jours de l'année, les Galeries Barbès vous offrent de fantastiques prix démarqués sur des quantités de meubles neufs, dans tous les styles, dans tous les rayons. Des prix démarqués avant inventaire. Galerie Barbès, 55 boulevard Barbès, au 120 Faubourg du Temple, ouvert tous les soirs jusqu'à 22h30 avec buffet campagnard gratuit.
Galerie Barbès à Vélizy 2, centre commercial régional. Maintenant, Europe 1 et les montres Seiko à quartz vous donnent l'heure à la seconde près. À ma montre Seiko à quartz, il est exactement 15h. Le flash, Françoise Kramer.
Le cortège transportant la dépouille du président Boumediene est maintenant bloqué à la grande mosquée d'Alger par la foule innombrable qui a débordé les cordons de police.